Bonjour et bienvenue en Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Yann.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Convaincu que Jésus représente une espérance pour tous dans ce monde, nous parlons des problèmes d'actualité et des réponses que la Bible peut y apporter.
Dans un moment, Jean-Yves reprendra le thème de la réconciliation abordé la dernière fois. Mais d'abord, Yann et Robert vont poursuivre leur discussion sur la vie d'Abraham. Souvenez-vous qu'Abraham et Saraï ne pouvaient pas avoir d'enfants. Impatients d'attendre la promesse de Dieu, ils ont malheureusement cherché à résoudre leurs problèmes en y apportant leur propre solution.
Je suis content d'accueillir de nouveau Robert sur l'émission.
Bonjour Yann et bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais que vous vous imaginiez dans une situation où vous avez un choix important à faire, une décision capitale à prendre. Peut-être votre fille est-elle malade ? Faut-il l'emmener chez le guérisseur du village ou la conduire à la clinique située à quelques jours de marche à pied ? Un autre exemple, les prévisions pour la récolte sont décevantes et vous vous demandez comment subvenir aux besoins de la famille. Faut-il envoyer votre fils chercher du travail en ville ? Faut-il vendre le reste du bétail ? Faut-il emprunter davantage d'argent au prêteur du coin ? Dans chaque circonstance de la vie, nos choix peuvent être influencés par des personnes qui expriment leur avis, nous poussant dans un sens ou dans un autre, ou bien par les traditions que l'on peut suivre sans réfléchir. Qui faut-il écouter ?
Et quel est le rapport entre ces questions et la vie d'Abraham ?
Tout à l'heure, nous lirons ensemble un passage de la vie d'Abraham où il s'est trouvé devant une difficulté et fut poussé à prendre une décision qui s'est avérée désastreuse. Cet incident doit nous mettre en garde. Il s'agit de Genèse, chapitre 16, versets 1 à 4.
Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfants. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écoute la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prie Agar. Et la donna pour femme à Abraham, son mari. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarde sa maîtresse avec mépris.
Nous avons vu la dernière fois combien le fait de rester sans enfant devait peiner Abraham et Saraï. Dans cet incident que vous venez de lire, Saraï, au lieu d'avoir foi en la promesse de Dieu, essaya d'apporter sa propre solution à cette situation apparemment insoluble. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'Abraham a écouté la voix de sa femme et la voix de la tradition au lieu de chercher la sagesse de Dieu. Par la suite, nous verrons qu'Abraham a rencontré de sérieux ennuis à cause de cette décision mal réfléchie.
Êtes-vous en train de dire qu'il ne faut jamais écouter sa femme ?
Non, non, pas du tout. Il est important d'écouter les conseils que peuvent nous donner nos proches. La famille est très importante. Toutefois, il ne faut pas les suivre aveuglément, sans réfléchir. Nos proches peuvent donner de bons conseils, mais peuvent aussi parfois se tromper et nous induire en erreur.
Et quelle est l'erreur d'Abraham dans le récit que nous venons de lire ?
Au lieu d'avoir confiance en Dieu et d'attendre le temps voulu pour l'accomplissement de sa promesse, Abraham et Saraï ont eu recours à une coutume qui était pratiquée à l'époque. Selon cette coutume, un homme qui avait une femme stérile était en droit d'avoir un enfant de l'une de ses servantes afin d'obtenir un héritier. C'est exactement ce que fit Abraham avec sa servante Agar.
Voilà sans doute une manière de régler le problème, mais vous avez l'air de suggérer que ce ne soit pas la bonne solution.
C'est exact. Selon les desseins de Dieu que nous lisons dans la Bible, l'acte sexuel doit se limiter au cadre du mariage. Et c'est dans ce cadre seul, celui d'une relation fidèle entre un homme et une femme, que nous devons engendrer des enfants. Ce qu'Abraham a fait avec Agar constitue un acte d'adultère. Donc Abraham et Saraï ont pris le chemin de la désobéissance. Et ce n'est pas ainsi que les promesses de Dieu devaient s'accomplir. D'ailleurs, nous constatons que sa faute a entraîné bien des ennuis au sein de cette famille, jusqu'alors plutôt paisible. D'abord, Agar, la servante, lorsqu'elle comprend qu'elle est enceinte, entre en conflit avec sa maîtresse, Sarai. Sarai, de sa part, devient jalouse de sa servante et commence à la maltraiter. Elle cherche aussi querelle à son mari, alors que l'idée vient d'elle.
Oui, nous constatons que cette décision mal réfléchie fut à l'origine de beaucoup de peines et de discordes. Mais comment Abraham aurait-il pu éviter tout cela?
C'est une bonne question. Et elle me conduit à une leçon essentielle qu'il faut retenir aujourd'hui. Devant toute décision de taille, nous devons rechercher la volonté de Dieu, nous assurer que Dieu approuve le chemin que nous envisageons de prendre. Il faut donc écouter d'abord et surtout la voix de Dieu avant d'écouter les conseils de nos proches et éventuellement la voix de la tradition. Si Abraham avait mûrement réfléchi sur sa décision, et cela surtout devant Dieu, à la lumière de ce que Dieu en pensait, il aurait épargné sa famille de bien des contrariétés.
Vous dites qu'il faut écouter les conseils de Dieu, mais comment faire, car il n'est pas devant moi comme ma femme ou mes amis peuvent l'être?
Bien sûr, lorsque je dis qu'il faut écouter Dieu, c'est une façon de parler. En fait, on ne doit pas s'attendre à entendre une voix audible venant du ciel. Non, aujourd'hui nous avons une source beaucoup plus fiable dans laquelle nous trouvons tous les desseins et les conseils de Dieu. Il s'agit d'un livre que nous appelons la Bible. À force de lire la Bible, nous apprenons à connaître Dieu. À force de lire la Bible, nous apprenons aussi à connaître le bien et le mal, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Dans la Bible, nous pouvons puiser dans la sagesse de Dieu. Dieu désire influencer nos choix et nos décisions, non dans le but de jouer le trouble-fête, mais parce qu'il veut nous épargner les conséquences parfois douloureuses et dramatiques de nos propres erreurs.
Je comprends bien vos propos. Dieu désire notre bien, il veut nous protéger. Mais pourquoi dans cette situation précise, Abraham a-t-il oublié de chercher la volonté de Dieu?
Le texte ne nous le dit pas. Mais il y a peut-être deux raisons possibles. D'abord, Abraham fut soumis à une pression énorme. Ce n'est pas facile de dire non à ceux que nous aimons et non à la tradition. Ce n'est pas facile d'aller seul à contre-courant lorsque nos proches et le monde qui nous entoure nous poussent à céder pour aller dans leur sens. Abraham a dû fléchir devant cette pression. Ensuite, il est possible que la foi d'Abraham ait chancelé et que sa femme et lui soient tombés dans le désespoir. Ne voyant pas la promesse de Dieu s'accomplir, ils ont pris la situation en main, à la manière du monde de l'époque.
Il est vrai que devant les difficultés qui s'accumulent, le désespoir peut s'installer, nous poussons à prendre des décisions imprudentes et irréfléchies.
Oui, nous pouvons compatir avec des familles qui ont tout perdu à cause de la guerre ou la famine, des familles qui sombrent dans la pauvreté ou sont affligées par la maladie et qui ne savent pas comment s'en sortir. Cet incident de la vie d'Abraham sert de mise en garde. Malgré toutes les tentations et pressions que nous pouvons subir, il nous faut chercher la volonté de Dieu en lisant sa parole, la Bible. Même si les circonstances de la vie mettent notre foi à rude épreuve, nous devons garder cette foi, car l'Éternel est bienveillant et tout-puissant. Il sait s'occuper des siens et il apportera une issue à notre détresse.
Nous venons de voir qu'en n'accomplissant pas la volonté de Dieu pour prendre à la place une décision irréfléchie, Abraham a perdu les relations de confiance qui existaient parmi les siens et brisé bien des cœurs. Sa famille a désormais besoin de connaître la réconciliation.
Les problèmes relationnels sont malheureusement courants et c'est pour cela que nos méditations bibliques parlent de ce fait. Pour ouvrir notre méditation, Hélène va lire quelques versets de la Bible, trouvé dans la deuxième épître de Paul à l'église de Corinthe, au chapitre 5 et versets 18 à 20.
Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a demandé d'annoncer cette réconciliation. Oui, c'est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui par le Christ. Il ne tient plus compte des fautes des humains et il nous charge d'annoncer cette parole de réconciliation. Dieu lui-même vous lance un appel. Au nom du Christ, acceptez d'être réconcilié avec Dieu.
Les hommes ont du mal à s'entendre et les disputes avec les proches, la famille, les voisins ou les collègues ponctuent trop souvent le cours de leur vie. J'ai évoqué la dernière fois le malheur engendré par les relations brisées et les conséquences de la rupture des relations avec Dieu. J'ai introduit aussi une note d'espoir, celle de la réconciliation, un cheminement par lequel deux personnes qui se sont séparées parviennent à marcher de nouveau ensemble, dans l'harmonie et l'entente. Toutefois, ce chemin vers la réconciliation n'est pas facile. Il s'agit d'un chemin ardu, mais il vaut la peine de le prendre. Que faut-il donc faire pour parvenir à une réconciliation ? D'abord, il faut que les deux personnes en question veuillent se réconcilier. L'une des deux peut tenter une démarche de réconciliation, mais si elle ne rencontre pas la bonne volonté de l'autre, rien n'aboutira. Il faut donc que tous les concernés le désirent, et si certains demeurent réticents, on peut chercher à les persuader de l'utilité d'une telle démarche, mais on ne peut pas les obliger. Ensuite, il faut aborder les problèmes advenus dans le passé, cause de la division entre les parties. On ne peut pas faire semblant ou prétendre que rien ne s'est produit. S'il y a eu rupture de relation, c'est qu'il y a eu offense ou dispute, et il faut résoudre ces conflits. Là où nous avons eu tort, il faut le reconnaître. Là où quelqu'un nous a offensés, nous devons être disposés à pardonner. Là où il y a eu faute, il faut vouloir changer de comportement. Ces choses ne viennent pas facilement. Il est difficile de pardonner, difficile de reconnaître ses torts, mais c'est pourtant le chemin à prendre pour obtenir une réconciliation solide et durable. Connaissez-vous la parabole du fils prodigue racontée par Jésus ? C'est l'histoire d'un jeune homme qui offense son père pour ensuite quitter son foyer et sombrer dans le mal et le malheur. Voilà une image de comment nous avons traité Dieu et des conséquences qui s'ensuivent. Dans l'histoire, nous rencontrons le père, il est loin de sa maison et il cherche partout son fils. Cette parabole nous montre Dieu désirant se réconcilier avec les hommes, quelle que soit leur faute, quel que soit leur passé. Toutefois, la réconciliation ne devient possible que lorsque le fils prend conscience de l'offense occasionnée à son père, et c'est seulement alors qu'il désire retourner à la maison. L'histoire se poursuit avec la rencontre bienheureuse entre le père et le fils. Le premier regrette la rupture dont il était à l'origine, et le père, de sa part, pardonne à son fils toutes ses fautes. Il l'accepte pleinement et se réjouit de son retour à la maison. Voilà une belle histoire de réconciliation. Vous pouvez aussi vivre une telle histoire. Dieu vous offre la réconciliation. Êtes-vous prêt à reconnaître vos torts, à rebrousser chemin et aller à sa rencontre ?
Certains n'osent pas s'approcher de Dieu. Ils pensent qu'il ne les acceptera jamais, que leurs fautes sont trop graves ou irréparables.
Mais la parabole commentée par Jean-Yves montre que ce n'est pas le cas. Dieu accueille tout pécheur repenti, sans distinction et quel que soit son passé. N'hésitez donc plus. Dieu vous offre la réconciliation. Il n'y a pas de plus beau cadeau.
Nous vous disons à présent au revoir et espérons vous retrouver lors de notre prochaine émission d'Espérance aujourd'hui.
Au revoir et que Dieu vous accorde sa paix et son pardon.